Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Cette semaine, je vais te partager mes 10 clés pour accélérer l'évolution de ton business. Alors, quand je dis accélérer l'évolution, c'est pas dans l'objectif d'une course à la performance, c'est plutôt dans l'optique de te concentrer sur ce qui compte dans le développement de ton activité, de mieux évoluer dans ton quotidien d'entrepreneur. L'idée, c'est que peut-être tu changes de perspective sur ton business, et que tu comprennes en fait les incontournables quelque part qui vont te permettre de vivre pleinement de cette activité qui te passionne, de concilier au mieux à la fois le pro et le perso, de développer ton activité avec le moins d'épuisement possible. Et pour ça, en fait, il y a effectivement des piliers fondationnels, entre guillemets, business, que moi j'ai pu observer, mais il y a aussi des choses que j'ai masteriser et même aussi avec mes clientes quand je coach, j'ai pu mettre le doigt en fait sur justement ces fameuses clés qui permettent que des choses soient plus fluides, qui permettent de d'être mieux dans son biz quand on donne la part à certaines choses, que ce soit dans le faire ou dans l'être. Et c'est ça en fait que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc si tu prévois à l'occasion du changement d'année de faire un bilan, de planifier ton année prochaine ou à l'occasion d'un changement de trimestre ou tout simplement à l'occasion d'une journée que tu consacres dans ta semaine à travailler sur ton business plutôt que dans ton business, eh bien, je t'invite à reprendre cet épisode et à faire l'inventaire un petit peu en évaluant où est-ce que tu en es, toi, sur ces 10 clés dans ton quotidien d'entrepreneur et peut-être de définir à partir de là ce sur quoi tu vas focuser, mettre en priorité ou éventuellement mettre en place. Voilà, donc si cet épisode te plaît, comme peut-être les autres épisodes que tu as écoutés dernièrement ou les autres contenus peut-être que tu as reçus aussi de ma part, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcasts, ça compte beaucoup pour moi. Parce que ça permet effectivement de mettre en avant et de soutenir le podcast. Donc si tu as quelques secondes ou quelques minutes de ton temps, eh ben je serais ravie que tu l'utilises pour me partager ton avis, ton témoignage, ce en quoi ces épisodes te sont utiles dans ton business. Un grand merci à toi d'avance pour ça. Alors, on va commencer très très fort puisque, et je pense que c'est un des plus grands enseignements peut-être, c'est que la clé numéro 1, c'est que tes plus grands challenges, les plus grands challenges de ta vie finalement, sont probablement ta zone de génie et probablement l'endroit où tu dois regarder à la fois pour créer tes offres, pour créer ton contenu, pour peut-être te nicher, te spécialiser, définir ton business. Ton plus grand challenge, tes plus grands challenges sont probablement ta zone d'expertise, ta zone de génie. En réalité, ce que tu as eu du mal à faire peut-être pendant une bonne partie de ta vie ou ce que tu as combattu depuis plusieurs années, ce sur quoi tu as eu des défis à relever, peut-être même et certainement d'ailleurs vécu des échecs, eh bien c'est là où peut se trouver ta zone de sagesse et ce que tu vas pouvoir finalement le mieux transmettre. Parce que certains sujets ou certaines thématiques, quand c'est facile pour soi, donc quelqu'un pour qui c'est facile, voire inné, hein, quand on parle des fois de talent naturel, eh bien c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément t'aider là-dessus ou t'expliquer ou aller creuser peut-être ce sujet versus quand il y a eu un cheminement personnel, eh bien on a souvent derrière finalement une véritable expertise. Donc mon point ici, c'est de te dire qu'il y a probablement beaucoup de réponses pour ton business dans ton propre chemin de guérison personnelle, dans les galères que tu as traversées et tout simplement parce que du coup tu incarnes complètement ce cheminement justement que tu as fait, ce chemin de guérison que tu as fait toi et c'est ça aussi ce qui va complètement faire la différence et aussi, du coup, être facile pour toi, puisque tu as testé des choses, tu as mis en place des choses, tu as eu des résultats, tu as eu des échecs, et du coup, bah, quoi de plus facile finalement que de partager, que de transmettre les choses par lesquelles on est nous-mêmes passés et qu'on a pu nous-mêmes évaluer finalement. Donc, ça, je trouve que c'est extrêmement important de mettre le doigt dessus, d'en avoir conscience et de savoir capitaliser aussi là-dessus. Alors, je vais faire une parenthèse assez importante sur un versant en human design pour venir aussi un petit peu mettre le doigt là-dessus et expliquer ça. Si tu m'écoutes régulièrement ou tu me suis, tu sais que je suis aujourd'hui coach en human design et que je vais développer une offre en 2023 où le HD sera très au centre de cette offre-là. Et du coup, je voulais un petit peu faire cette parenthèse sur le human design. Alors, si tu n'as pas encore ta charte, je t'invite à la générer, en fait. Et du coup, tu sais aussi, donc tu as juste besoin de ta date de naissance et de ton heure de naissance pour ça. Et tu verras que sur cette charte, tu as des... donc, je vais rester très simple et basique. Tu as des formes géométriques, en fait. Hein, et ce sont ce qu'on appelle les centres en HD. Et il y a des centres, pour faire simple, qui sont colorés. On va dire que ce sont les centres définis. Ce sont des talents et des forces auxquels tu as accès de façon fixe et constante, sur lesquels tu peux compter. Parfois, justement, ces fameux talents innés que tu ne sais expliquer, entre guillemets, sauf justement si tu viens un petit peu travailler dessus. Et puis, d'un autre côté, pour faire simple, encore une fois, on a des centres qui sont blancs. Et je vais considérer ici que ce sont donc nos centres non définis. Et en fait, ce qui se passe sur ces centres non définis, c'est que on vient capter les choses de l'extérieur. Et quelque part, c'est ce qu'on appelle du coup une zone de sagesse, puisque c'est là où on a des choses à déconditionner, des choses à apprendre. C'est là où probablement on va être challengé. Et donc où on va pouvoir justement peut-être développer ce fameux chemin de guérison personnelle cette fameuse sagesse ou expertise derrière. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que quand on accompagne du coup à partir de là, c'est possible qu'on connecte l'autre d'une manière un petit peu différente à nous-mêmes. Et du coup, alors c'est pas l'un ou l'autre, hein. En fait, on va pouvoir capitaliser à la fois sur ces centres définis et sur ces centres non définis. Mais effectivement, je dirais que ces centres non définis, c'est souvent voilà notre zone de génie qui est la résultante finalement de notre chemin de guérison et des plus grands challenges ou défis qu'on a traversés dans notre vie. Et c'est souvent là où effectivement on peut être aussi la meilleure accompagnante. Pour faire simple, je dirais que là où tu as tes centres définis, c'est là où tu peux peut-être enseigner et mentorer. Et là où tu as des centres non définis, c'est là aussi où tu peux venir coacher, refléter des choses chez l'autre et du coup accompagner. Ok, alors je vais te donner un exemple très pratique que j'ai en plus entendu très récemment, donc ça fait sens pour moi de te le partager. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un en HD qui aurait la gorge définie. Donc quand on a la gorge définie en HD, si on est aligné avec ce centre défini, ça veut dire qu'on a une certaine capacité à s'exprimer, à communiquer, on est assez à l'aise dans l'expression et la communication. Quelqu'un, donc admettons une entrepreneur qui a la gorge définie, pourrait surfer finalement sur cet aspect-là pour en faire une partie de son biz, comme par exemple faire des conférences, intervenir dans des conférences, prendre la parole en public. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, donc elle peut utiliser ce centre défini-là pour son travail, elle peut compter dessus. Ok, donc elle est bonne dans ce truc de s'exprimer, de parler en public, elle sait faire, potentiellement, comme je disais justement, peut-être même qu'elle ne peut pas l'expliquer. Donc, est-ce que cette personne-là peut te former ou te coacher sur la prise de parole? Est-ce qu'elle sera la meilleure accompagnante pour te coacher sur ce sujet-là? Oui, elle saura faire parce qu'elle a la gorge définie. Donc probablement qu'elle peut le faire, probablement qu'elle peut t'écouter, qu'elle peut te corriger, qu'elle peut t'aider à travailler ton pitch, etc. Mais elle pourrait tout aussi bien, et peut-être même avoir plus de résultats avec cette facette-là, venir accompagner les gens plutôt avec son plexus solaire non défini. Donc, le plexus solaire, ça va être, c'est le centre des émotions, d'accord? Donc, on imagine que cette personne, elle a la gorge définie, donc cette capacité, ce talent à communiquer et à cette capacité d'expression, et que d'un autre côté, elle a son plexus solaire non défini. C'est un peu mon cas, d'ailleurs. Ok? Donc, ce centre des émotions. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on monte sur scène pour faire des conférences, pour prendre la parole, etc., souvent, il y a des peurs, il y a du trac, il y a des émotions qui peuvent se mettre en marche. On va céder peut-être à nos émotions. Ça va se manifester peut-être par la respiration, par des tremblements, par etc., etc. Eh bien, plutôt que d'accompagner à prendre la parole et sur la partie qu'est-ce que je vais dire, comment je construis mon pitch, quoi, eh bien, peut-être que cette personne-là, là où sera son vrai talent, sa vraie zone d'expertise et là où elle peut, sa zone de génie, c'est accompagner les gens à mieux gérer leurs émotions pour aller sur scène. Ok, donc elle utilise son centre défini pour son travail à elle, je fais des conférences, elle peut l'utiliser effectivement si elle le souhaite comme talent et force quelque part innée, acquise, auquel elle a un accès fixe et constant pour faire un travail de « ok, je peux te dire si c'est bien, c'est pas bien, si tu fais des erreurs, pas des erreurs, comment construire ton pitch ?» Mais peut-être que sa plus grande force, ça serait effectivement de choisir cet angle-là pour ses offres, par exemple, hein, pour son business, et de proposer d'accompagner, non pas à prendre la parole, mais comment mieux gérer ses émotions ou vivre ses émotions ou pour aller sur scène. Ok, donc finalement, ces deux types d'accompagnement qui peuvent être différents, qui lui conviennent, puisqu'elle utilise sa compétence de prise de parole, mais quelque part, soit elle va l'utiliser en mode mentor, enseignement, je te montre, et en mode elle-même pour son biz, hein, en faire son activité, entre guillemets, soit elle accompagne au travail en amont, de monter sur scène finalement des émotions, au travail des émotions, de ce que ça va engendrer, de ce qu'il va y avoir à gérer quand on a justement cette peur, ce trac, etc., etc., de monter sur scène. Et probablement, parce qu'elle, avec son plexus solaire non défini, c'est probablement ce qu'elle a eu le plus de mal à traverser. Elle a probablement galéré avec les émotions, les siennes, celles des autres, jamais trop savoir ce qui se passe. Peut-être une sensation parfois d'être trop émotive, trop sensible, etc. Et donc, comme elle a traversé tout ça, elle a probablement appris plein de choses dans la gestion de ses émotions, dans le fait de vivre ses émotions et augmenter sa sagesse finalement sur ce point-là. Donc, elle va être capable d'accompagner beaucoup de personnes avant de monter sur scène à la gestion de ses peurs, avant même finalement la prise de parole en public. Ok, donc c'est vraiment intéressant. Alors là, je fais vraiment le parallèle avec le HD, mais si vous n'êtes pas du tout concerné par le human design, que vous n'avez pas envie de vous y intéresser ou que ça ne vous parle pas, encore une fois, vous pouvez rester sur le fait que probablement que vos plus grands challenges de vie sont votre zone de génie. Après, le human design nous permet juste de finalement valider ça hors conditionnement. Mais vous savez probablement, quoi qu'il en soit, ce par quoi vous êtes passé. Souvent, le human design sert juste à mettre des mots dessus et à comprendre finalement. Ce qui est hyper important là dans ce que je suis en train de dire, que ce soit avec le HD ou sans le HD d'ailleurs, c'est de savoir si, ok, est-ce que je suis prête à utiliser ce défi que j'ai traversé ou ce challenge que j'ai traversé. C'est-à-dire que, par exemple, si je reviens toujours sur cet aspect d'émotion, si vous luttez continuellement en permanence avec vos émotions, si vous êtes une vraie éponge émotionnelle encore, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas encore prête à accompagner sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'abord un travail à faire soi-même. C'est bien pour ça que je dis, hein, c'est quand on a déjà, nous, avancé, traversé notre chemin de guérison, que alors après, on devient excellent ou excellente, ok ? Pareil, hein, si vous voulez, si aujourd'hui, vous êtes challengé dans votre propre valeur, prouvez votre valeur, etc. Vous pouvez pas accompagner en fait à partir de là. Vous avez d'abord besoin de faire vous-même votre chemin par rapport à ça avant du coup de pouvoir exploiter cette sagesse et ce déconditionnement finalement que vous-même vous serez venu chercher sur cet aspect-là. Donc la question c'est est-ce que votre offre, est-ce que votre business, est-ce que vous proposez, est-ce que ce que vous proposez, ça fait référence référence à votre sagesse, ça fait référence à votre chemin de guérison à vous, ça fait référence à vos défis, à vos challenges par lesquels vous vous êtes passé. Alors, ça ne veut pas dire hein, que vous avez les réponses justes et exactes, que tout est parfait. Ça veut dire que vous venez d'un certain endroit et que là où vous en êtes arrivé aujourd'hui vous permet d'aider en fait les autres sur cet aspect-là. D'accord. Donc c'est hyper intéressant de prendre cette perspective et pour être tout à fait honnête, moi je vois souvent dans le milieu du bien-être des accompagnantes qui elles-mêmes sont pas matures sur les sujets qu'elles transmettent, qui elles-mêmes effectivement, alors quand je dis mature, c'est que le chemin de guérison n'est pas encore tout à fait abouti et quelque part on est en train de vouloir c'est un peu regarder déjà à l'intérieur de soi si on s'est auto-coaché et si on a travaillé soi-même cet aspect-là. Et ça, je le vois beaucoup dans le bien-être et dans le yoga. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont trop prématurées. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas vraiment masterisé le truc? C'est que du coup, ça devient très difficile, en fait, parce que c'est pas naturel, finalement, pour nous. Donc, c'est là où on est obligé, de faire des recherches, de travailler plus, d'aller chercher de l'information, de regarder un peu des choses théoriques, de se former peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, finalement, ça devient lourd, ça devient énergivore parce que c'est pas quelque chose en soi où on est un petit peu comme... Alors, on n'est jamais au bout du chemin, mais encore une fois, on a déjà fait un certain parcours et donc on est capable très facilement de finalement partager nos apprentissages, ok ? Ça, je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que pour moi, c'est une des clés d'évoluer dans son entreprise, c'est savoir se concentrer sur sa zone d'expertise et cette zone d'expertise, cette zone de génie, elle vient souvent de là. Je fais le lien directement avec mon point numéro 2 qui est que ce sur quoi vous vous êtes transformé vous-même, c'est la clé de ce que vous pouvez offrir. Dans vos offres, pareil, dans vos contenus d'une manière générale ou dans vos accompagnements. On peut pas faire cheminer une autre personne plus loin que ce qu'on a cheminé soi-même. Et ça, c'est pareil, c'est un peu dans la lignée du premier point. Et c'est valable, encore une fois, pour vos offres, pour vos contenus. D'ailleurs, j'ai eu le cas plusieurs fois même dans des coachings, notamment one-one, de clientes qui passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la création de leur contenu. Et souvent, c'est parce que elles vont chercher la théorie, les explications, les détails, ou voire même aller aborder un sujet et venir compléter leurs informations pour s'assurer finalement qu'elles n'ont rien oublié. Donc en fait, à ce moment-là, on part finalement de presque cette peur du manque ou d'oublier quelque chose ou de pas être complète sur ce sujet versus je vais aborder les choses à partir de ce que j'ai masterisé moi. Et je m'arrêterai là où moi j'ai masterisé en fait. Je vais pas régurgiter de la théorie ou ce que j'ai appris si finalement je l'ai pas encore incarné. Donc qu'est-ce qui a nourri vous, votre propre guérison? Sur quoi vous vous êtes transformé vous-même, c'est ça la clé de ce que vous pouvez offrir et de ce que vous pourrez offrir sans vous épuiser. Parce que le reste, en fait, vous prend du temps et vous prend de l'énergie. Donc, capitalisez sur votre transformation personnelle et sur votre propre chemin de guérison. Et tout comme, du coup, ce que vous allez vous offrir, vous, pour votre propre transformation personnelle, dans votre propre chemin, sera du coup ensuite ce que vous pourrez à votre tour offrir. Donc quand vous achetez, vous participez à des groupes, des formations, des retraites, des choses, peu importe, ou quand vous prenez soin de votre propre transformation personnelle à vous, sachez que tout ce travail que vous prenez le temps de faire ou dans lequel vous investissez, c'est quelque chose, une fois que vous l'aurez intégré, expérimenté, incarné, que vous pourrez en fait à votre tour offrir. Mais tant que vous n'êtes pas forcément passé par là dans le sens de l'avoir incarné, juste faire un copier-coller et régurgiter, c'est pas bon en fait. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'être trop loin de la cliente idéale avec laquelle on veut travailler, mais c'est nécessaire de faire cheminer les autres, de ne pas faire cheminer les autres plus loin que ceux qu'on a cheminé nous-mêmes, ok ? Donc, y a deux clés ici, hein, c'est ce sur quoi vous êtes transformé, c'est la clé de ce que vous pouvez offrir, mais on ne peut pas cheminer effectivement une autre personne plus loin que ce qu'on a cheminé nous-mêmes. Et j'en viens du coup à mon troisième point, et vous imaginez bien que je pouvais pas parler des 10 clés pour faire évoluer son business sans parler de ça, bah, c'est de se spécialiser effectivement, de cibler à la fois son business, à qui on s'adresse, ses offres. Donc c'est vraiment de se poser et de savoir en tout cas qui on sert. Et encore une fois, hein, je ne parle pas du persona, j'ai tel âge, telle catégorie socio-professionnelle, etc. J'ai les yeux bleus, les cheveux marrons. Je parle bien de mon client idéal, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui lui serre les tripes, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, qu'est-ce qu'il pense, sur quoi il doute, qu'est-ce qu'il croit, quelles sont les erreurs qu'il fait, pourquoi il n'y arrive pas, etc. Je parle bien de ça et de savoir effectivement qui je sers. Donc je sais que, encore une fois, hein, je vais pas ici parler de ce sujet, j'en parle beaucoup déjà, mais je sais que beaucoup d'entre vous résistent encore au fait de se spécialiser. Alors souvent aussi parce qu'il y a des fausses croyances sur le sujet, comme par exemple la plus grosse croyance qui est souvent de penser que en vous spécialisant, vous allez vous enfermer. En réalité, vous spécialiser, ça rend juste vos messages plus impactants, ça permet juste de savoir à qui vous parlez, de quoi vous parlez et de quoi vous allez parler justement, et de créer beaucoup plus de connexion avec les gens que vous pouvez, que vous voulez aider. Et une fois que la connexion est établie, et une fois que vous avez développé un bout de votre business, eh bien, ça sera ensuite beaucoup plus facile derrière de revenir vous un petit peu élargir, de revenir proposer aussi d'autres choses. Moi, par exemple, je me suis spécialisée pour les profs de yoga. D'une part, ça m'a pas empêché d'attirer des thérapeutes, des coachs sportifs, des coachs holistiques. Et d'autre part, aujourd'hui, par exemple, je développe le human design, je développe des approches pour les multipassionnés, je développe d'autres choses et... Ben, ce sont ses premiers clients, donc les profs de yoga, qui continuent de me suivre et de travailler avec moi sur ces sujets finalement. Donc, et parfois j'ai même l'inverse, des clients qui commencent à travailler avec moi via le HD pour aller ensuite du coup vers mes offres business. Si j'avais démarré sur le human design pour tout le monde ou le business en ligne pour tout le monde, j'en serais probablement pas là, et en tout cas je serais pas arrivée ici aussi vite, j'aurais pas développé justement mon business avec autant finalement de fluidité et de finalement de d'assez naturel, enfin quelque chose qui s'est fait assez facilement parce que j'ai tout de suite connecté avec ma cible, puisque qui je sers, bah, c'est très spécifique et c'est très au clair en fait, ok ? Voilà, et si aujourd'hui en revanche je me sentais prête ou j'avais envie finalement d'ouvrir à tous les entrepreneurs qui veulent développer un business en ligne, je peux le faire maintenant, ça sera beaucoup plus facile pour moi, parce que les gens qui vont commencer à me découvrir verront derrière qu'il y a déjà un background, qu'il y a déjà une audience, qu'il y a déjà des abonnés, qu'il y a déjà des contenus, qu'il y a déjà des vraies stratégies, des vrais conseils, des témoignages, etc. Donc ça serait complètement possible. Donc en fait, se spécialiser et cibler ce qu'on veut faire, à qui on veut s'adresser, ça peut être quelque chose qui définitivement nous plaît et on souhaite rester là-dedans, et voire même on affine avec le temps, parce que je le vois ça aussi hein, chez certains coachs, formateurs, profs de yoga ou quoi, qui viennent finalement encore plus affiner dans le temps. Et puis à l'inverse, on peut très bien aussi élargir à un moment donné, pivoter, les deux sont jouables. Donc le truc à se rappeler, c'est que quand on veut développer un business à un moment donné, il faut être spécifique dans qui je sers, et si je le suis pas, l'être au moins dans mes offres, en tout cas le plus possible, et surtout de retenir qu'à aucun moment c'est enfermant. C'est surtout ça pour moi la clé derrière à comprendre. Quatrième clé, et là je vais un petit peu partir du coup dans les parties business model. Et ça, voilà, c'est aujourd'hui, je vois toutes les personnes qui arrivent vers moi, soit en coaching, en formation ou quoi, c'est j'en peux plus finalement d'échanger mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire j'en peux plus de donner X 1000 cours, j'en peux plus de donner X séances de naturo, de sophro, d'astro, d'ayurveda, de massage, etc. Puisque à un moment donné, effectivement, lorsqu'on travaille, que ce soit à la séance, à l'heure ou au cours, sur des métiers de thérapeute, de prof de yoga ou quoi, si on veut gagner sa vie, il y a deux solutions. Soit travailler plus d'heures, mais à un moment donné, on a quand même un plafond d'heures puisque nos journées, faut toutes le même temps et 24 heures. Soit effectivement augmenter ses prix. Et aujourd'hui, on voit... dans le milieu du coaching, on voit des choses à tous les prix. Dans nos milieux, à nous, en tout cas, thérapeute, séance de thérapeute ou encore prof de yoga, cours de yoga, j'ai envie de dire en drop-in, même en one-one, il y a un moment donné où, de toute façon, il y a un espèce de... Sur l'échelle de valeur, l'échelle économique, j'ai déjà utilisé cet exemple-là, à un moment donné, un cours de yoga, il peut pas non plus valoir 100 fois la valeur du cours de yoga d'à côté. C'est comme à un moment donné, une baguette de pain, elle peut valoir 80 centimes à un endroit et peut-être 1,40€ à un autre, mais on n'aura jamais un écart de prix parce que ce sont finalement les produits entre guillemets ou les services de base sur lesquels il y a un référentiel sur l'échelle économique de valeur, ok. Et puis quand bien même, si j'augmente mes prix à la séance, encore une fois, ça dépend de nos mondes, parce que dans le coaching, dans le one-one, etc., on peut avoir des prix très élevés, mais on sera là aussi, quoi qu'il en soit, limité par le nombre d'heures à un moment donné, même si on augmente nos prix. Donc, évidemment, je suis pas pour dire qu'il faut absolument pas faire d'individuel. En plus, je dirais qu'au début, quand on démarre, c'est OK justement de venir tester des formats, tester des offres, se faire ses armes, trouver son identité aussi, sa spécialisation aussi, parce que je pense que c'est aussi en faisant qu'on arrive justement à affiner et à savoir vers quoi on veut se spécialiser, ce qu'on préfère, dans quoi on est le plus à l'aise, etc. Mais c'est ne pas oublier quand même de se poser des questions du type « quelle valeur a mon temps ?» et à un moment donné, qu'est-ce que je peux proposer finalement pour sortir de ça, pour sortir de ce cercle vicieux un petit peu d'échange de temps contre de l'argent dans mon biz et qui me permettrait ou qui n'aurait pas en tout cas ce fameux plafond de verre. Donc... ça, c'est encore plus important, je dirais, pour vous, si vous savez que vous avez tendance à travailler beaucoup, à pas savoir vous arrêter, que vous avez déjà été sujette ou que vous êtes régulièrement sujette à des grosses fatigues, à du burn-out. Ça va vraiment être important, rapidement, de vous poser cette question et de sortir de cette logique et de comprendre comment vous pouvez sortir de ça dans votre bise qui n'aurait pas de plafond de verre et garder peut-être ce format-là, si vous l'aimez, juste pour... entre guillemets, le plaisir, ou avec parcimonie, ou en tout cas, équilibrer le curseur. Ça va être difficile de faire évoluer votre entreprise et d'optimiser votre temps si vous êtes bloqué dans ce schéma d'échanger du temps contre de l'argent. Donc, comment vous pouvez, à un moment donné, vous assurer de mieux gagner votre vie tout en étant dans votre plaisir, à la hauteur de votre expertise, etc. Donc, probablement, ça va être effectivement d'aller vers des activités en groupe, vers des programmes en ligne ou vers des choses automatisées. Ça dépendra de ce qui vous fait vibrer. Le sujet, en fait, c'est que si ralentir, prendre du temps pour vous, équilibrer vie pro, vie perso, ça veut dire diminuer vos revenus, in fine, on est dans une privation de liberté qui va être énorme. Et du coup, c'est là où on rentre dans je vis en apnée, je vis avec les peurs de manquer, je vis avec des compromis ou des sacrifices sur des projets perso. Donc en fait, la question à se poser, c'est ça, c'est est-ce que si demain je ralentis dans mon business, mes revenus par répercussion diminuent eux aussi ? Ou est-ce que justement, j'ai un business model qui me permet quand même de pouvoir ralentir ou envisager certains projets sans pour autant qu'il y ait d'impact sur mes revenus ? Et donc, ça me fait un lien direct là aussi avec le point numéro 5, qui est aussi de diversifier votre activité. Pour être quelque part moins fragile. Donc voilà, je vous refais pas la photo hein, de la crise qu'on a traversée, les studios confirmés, vos cabinets si vous êtes thérapeute confirmés, etc. Ou si vous aviez que des activités en présentiel. Donc il y a effectivement cet aspect-là. Hein. Il peut aussi, il peut tout à fait y avoir ce genre de crise dans la vie, mais il peut y avoir aussi une saisonnalité dans votre activité. Donc comment vous, là-dedans, vous arrivez à trouver un équilibre en proposant plusieurs formats d'accompagnement, plusieurs offres qui vous permettent justement de jongler en cas de un secteur, quelque chose de plus défaillant ou une saisonnalité ou pour trouver quelque part votre équilibre là-dedans, parce que in fine, avoir une seule chose et comme mettre tous ses œufs dans le même panier, ça peut être très stressant, ce qui fait que ça va, du coup, vous allez avancer dans votre business avec des intentions qui sont pas forcément bonnes. Et du coup, ça va pas fonctionner. Hein. Donc, sans vouloir tout créer en même temps, sans vouloir s'éparpiller, se disperser, etc., c'est important vraiment d'avoir un peu de clarté et un peu de vision sur peut-être cette fameuse suite d'offres ou cette fameuse écosystème que vous pourriez mettre en place avec différents formats du coup d'accompagnement et d'offres. Et aussi, je me permets ici d'ajouter, parce que je le ressens parfois chez certaines personnes que je peux accompagner, parfois il vaut mieux soit démarrer un business en gardant quelques heures dans un job à côté, ou même prendre un side job justement pour pouvoir développer son business sereinement en se disant, en fait, le sujet, c'est « Ok, qu'est-ce qui va me permettre d'être tranquille, d'être en sécurité, de pas avoir des peurs ou de pas, du coup, projeter des choses, finalement, qui sont stressantes dans mon quotidien et du coup, de pas venir mettre ses attentes, quelque part, créer ses attentes sur mon mise en ligne. » Et donc, des fois, le bon équilibre, ça peut être de faire ce choix aussi, d'avoir un side job à côté, le temps de développer et que notre business en ligne prenne de l'ampleur. C'est juste là où il va falloir faire mettre le juste curseur pour avoir quand même suffisamment assez de temps à consacrer à son projet entrepreneurial. Donc l'idée, c'est pas de prendre un temps plein ou quoi, mais j'ai envie de dire que parfois, c'est finalement ça va. Si ça peut créer de l'immobilité en fait dans votre business, si du coup il y a toujours cette manque ou ce manque ou cette peur ou cette insécurité, ça va avoir un impact. Votre business il se développera pas si vous vibrez cette énergie de manque en fait. Ok, donc quoi qu'il en soit, avec un side job ou sans side job, diversifiez votre activité, avoir un business model avec où vous diversifiez vos accompagnements, vos formats d'accompagnement, vos offres, etc. C'est quelque chose à envisager. Sixième clé pour faire évoluer votre business. Et alors là, je vais revenir sur une des fondations et une des priorités, parce que j'ai été très étonnée de voir à quel point un certain nombre d'entre vous n'avaient pas cet outil-là dans leur boîte à outils d'entrepreneur. C'est de commencer. Alors attention, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ni de secret, mais c'est de commencer, d'avoir votre liste email. Aussitôt vous recevez le siret de votre auto-entreprise ou peu importe, de votre société, mais vous devez créer votre liste email. C'est vraiment là où doit être ou sera ou est ou votre audience en fait, votre meilleure audience, les personnes qui voudront travailler avec vous, votre première audience, elle est dans votre liste email. Donc, s'il y a une chose que vous devez créer tout de suite, c'est ça. Et non, c'est pas penser à son logo, à son nom, à Instagram et tout le reste. La première étape, c'est vraiment, je vais sur un logiciel d'emailing, je crée mon compte. Bon, moi, vous savez que je vous recommande System.io. Vous avez d'ailleurs un lien affilié si vous souhaitez vous inscrire sur System.io dans les notes de cet épisode. Donc, vraiment, je vais paramétrer mon compte email. Savoir faire un lead magnet, faire une page de capture, etc. Bon, évidemment, vous allez en avoir besoin pour récolter les emails. Mais la base, c'est déjà, de vous intéresser à ça, c'est vraiment la priorité en fait. Alors dans YogiBizLang, j'explique tout de A à Z. Vous avez même les tutos avec voilà point par point. Tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là. Les templates de pages de capture pour récolter les prénoms et les adresses mail. Vous apprenez évidemment à faire un lead magnet. Donc il y a toute la stratégie d'emailing. Évidemment que vous retrouvez dans YogiBizLang, mais même sans ça, en fait, juste la base, c'est d'aller vous dire, ok, je prends un outil d'emailing et j'ai un truc qui me permet, enfin voilà, un logiciel d'emailing qui me permet de récolter les adresses mail, d'avoir une base d'email. Même si vous êtes en studio, même si vous faites des consultations encore en one-one, tous les clients ou les personnes avec qui vous travaillez, vous devez récolter leurs adresses email. C'est hyper important. Vous le savez, les réseaux ne vous appartiennent pas. Les réseaux sont soumis à des algorithmes et des algorithmes qui sont pas du tout, qui fonctionnent pas du tout avec les mêmes intérêts, vos intérêts à vous. Le but d'Instagram, par exemple, avec les Reels, c'est pas que vous développez votre bise, c'est que les gens restent plus longtemps sur la plateforme. Donc voilà, c'est pas ça a rien à voir avec le développement de votre business. Le développement de votre business, ça a tout à voir avec votre liste email. Pas de liste, pas de bise. OK ? Et donc encore une fois, c'est peu importe la manière dont vous le format dont vous faites votre job aujourd'hui, en fait, vous devez trouver un moyen de constituer cette liste. La liste email, elle va subsister, peu importe la mode, les tendances, le dernier objet à la mode, les bugs, enfin, peu importe. C'est vraiment votre ligne directe entre vous et votre audience. C'est 40 fois plus efficace que tout autre médias ou médium pour générer des ventes. C'est vraiment là où on a le meilleur retour sur investissement. Donc, si vous voulez utiliser votre temps sur des actions qui ont du résultat et rester concentré sur ce qui compte vraiment, eh bien, avoir cette liste email et bien évidemment l'entretenir derrière, ça doit faire partie de vos priorités. J'ai reçu un message très récemment quand j'ai partagé justement comment mettre en place un calendrier de l'Avent et que je disais stop, arrêtez de faire des clients des calendriers de l'Avent où vous allez poster les 30 jours là ou les 24 jours de décembre sur Instagram. Et j'ai reçu un mail qui m'a fait mal au cœur d'une abonnée qui me disait « Je sais même pas comment récupérer des mails, j'ai pas de tunnel de vente, j'ai payé une formation très chère qui m'a appris le branding, couleur, écriture, niche, Canva, Insta, Reel, mais je n'ai même pas de canal de vente. Donc, c'est super, hein, j'ai un beau profil et des likes, mais moi, je suis pas influenceuse, je suis prof de yoga et je veux vendre mes cours en ligne. » Et voilà, j'ai vraiment, on sent la détresse dans ce message et pour le coup, on sent qu'il y a vraiment eu le déclic sur le fait qu'effectivement, on n'est pas là pour créer des posts sur Instagram, on est là pour faire du biz et vraiment avoir sa liste email, c'est la base de la base. Septième clé, c'est évidemment de venir comprendre que toutes les peurs, parce que voilà, j'entends beaucoup « oui, mais ça, je sais pas faire, oui, mais ça, je peux pas, oui, mais moi, ça, j'y connais rien, etc. » Donc, on est bien d'accord que de là, derrière tout ça, en fait, il y a des peurs. Et donc, c'est de comprendre que souvent, le succès, entre guillemets, ou en tout cas, le développement de votre business, eh bien, il se trouve de l'autre côté de ces peurs. Ou autrement dit, ces peurs, quelque part, elles sont motrices, d'accord ? Elles sont motrices à partir du moment où quoi ? À partir du moment où il n'y a pas de danger vital pour vous, ok ? À partir de là, ça veut dire que je peux y aller. S'il n'y a pas de danger de mort, c'est juste des peurs, c'est juste mon cerveau qui me protège, m'envoie des signaux. Mais derrière, tout est une histoire d'apprentissage, en fait. Ni toi, ni moi, on est né avec un smartphone dans les mains, probablement. Peut-être que, mais dans la moyenne d'âge de mes clientes. Et ni toi, ni moi, on a fait du facecam toute notre jeunesse sur Instagram. Donc, c'est des choses moi, aujourd'hui, par exemple, si j'en fais ou si toi, t'en fais, des choses qu'on a appris. Donc, en fait, toutes ces peurs et ces croyances qu'on peut avoir dans notre business sur le fait qu'on peut pas, on sait pas, etc., c'est des choses qui peuvent se travailler, c'est des choses qui peuvent se reprogrammer, c'est des choses qui peuvent se réécrire, c'est du réencodage, tout ça. Et à un moment donné, si on veut développer notre business et avoir du succès professionnel, c'est indispensable, évident et incontournable, finalement, de venir travailler là-dessus. Et pour moi, comment on travaille, enfin, le truc à se rappeler, c'est que quand une peur vient nous chercher, c'est souvent parce que c'est quelque chose effectivement de nouveau, parce qu'on est dans quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on ne maîtrise pas, qui effectivement, comme on ne maîtrise pas, comme on ne sait pas comment ça marche, etc., bah, y a des peurs qui viennent se créer. Mais ça veut aussi dire que du coup, on est bel et bien en train d'évoluer. Et pour moi, bah, ces peurs, c'est finalement, c'est elles qui nous poussent vers l'avant. C'est elles qui nous montrent qu'on est en train d'évoluer, on est en train de développer quelque chose, on est en train de passer un nouveau cap, un nouveau stade. Et donc, je dirais de retenir qu'en fait, les peurs, elles sont véritablement motrices. Alors, ça n'empêche pas de travailler dessus, hein. Je n'ai pas dit que ça se faisait du jour au lendemain et que c'était facile. Mais en tout cas, c'est de retenir que c'est un signal qui nous dit, ben voilà, tu es en train d'évoluer là parce que tu es en train de bosser sur quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, c'est en train, quelque part, de te pousser vers l'avant. Ça veut dire que tu es en train vraiment d'avancer. Mon huitième point, et j'ai fait un épisode complet sur ce sujet, donc je vous renvoie vers cet épisode, mais c'est bien évidemment de déléguer. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont pris des décisions justement suite à ce fameux épisode avec Lucie où on parle en long, en large et en travers de délégation, et puis je vous avais aussi dit dans mon contenu hein, que vraiment la délégation c'est une action, une stratégie entre guillemets sous-côté quand on démarre en fait, c'est-à-dire qu'on sait à un moment donné que la délégation peut arriver dans notre business, on sait que ça existe, mais souvent pourquoi c'est sous-côté? Bah parce qu'on se dit c'est pas pour moi tant que je fais pas un certain chiffre d'affaires ou c'est pas pour moi là avec mon petit business où je démarre, etc. Et en fait, clairement, même si vous êtes au tout début de votre activité, la délégation, c'est aussi fait pour vous. Et je voulais juste rappeler, hein, puisque après, je vous laisserai écouter l'épisode complet là-dessus, que vous pouvez commencer à déléguer pour quelques euros. Vous pouvez commencer à déléguer par une seule petite chose seulement. Vous pouvez commencer à déléguer une heure seulement, c'est aussi possible, ou à vous faire aider une heure seulement. Et donc, commencer avec un petit budget, c'est possible. Commencer avec des petites actions ou une chose ou peu de temps, c'est aussi possible. Déléguer, ça veut pas dire tout de suite déléguer la moitié de son business à qui que ce soit. Alors, pour ma part, j'ai commencé avec 200 euros par mois qui couvraient toute ma gestion administrative, suivi de factures, etc. Mais on peut commencer avec beaucoup moins que ça aussi. L'idée, c'est vraiment de venir identifier à la fois ce qui vous prend du temps, ce qui vous procure vraiment aucun plaisir et aussi là où vous n'êtes pas essentiel. Et j'insiste sur ce point parce qu'il y a des choses que vous savez faire, mais pour autant sur lesquelles vous n'êtes pas essentiel. Donc sur ce point-là, c'est une clé vraiment importante. Je sais que pas mal d'entre vous sont passés à l'action suite à l'épisode, donc je ne peux que vous recommander d'aller écouter l'épisode qui est très complet à ce sujet. Neuvième point, neuvième clé, eh bien un peu dans la même lignée que déléguer, c'est à mon sens de se faire accompagner. Donc c'est dans la même veine, si tu veux que ton business évolue, il y a de fortes chances que tu aies besoin à un moment donné de te faire accompagner. Soit parce que si tu continues à faire ce que tu fais, eh bien tu ne verras jamais de changement en fait, puisque justement tu ne fais pas autrement, t'as pas d'autres perspectives, on te propose pas non plus d'autres directions, on n'audite pas ce que tu fais, on t'apporte pas d'éléments correctifs, et Dieu sait que je sais qu'on peut aussi, bah, quand on entreprend, hein, ne pas forcément être entouré, surtout au début, de peut-être beaucoup d'autres entrepreneurs. Et donc, on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et finalement, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de résultats différents, puisque pour qu'il y ait des résultats différents, il faudrait opérer d'une manière différente. Et ça, si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre le nez dans mon business, ou si à un moment donné, je ne décide pas de me former ou de prendre les choses en main, il y a de fortes chances effectivement que ça se passe pas. Et puis la deuxième raison, c'est aussi parce que, et je le dis souvent, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc en fait, peut-être que tu sais enseigner le yoga, c'est ton savoir-faire, mais que tu ne sais pas créer une offre en ligne, ou que tu ne sais pas vendre, ou tu ne sais pas toute seule travailler sur tes peurs ou tes croyances ou autres. Et donc forcément, à un moment donné, tu as besoin de te faire accompagner si tu veux avancer. Donc la différence entre être salarié et être entrepreneur, c'est quand même que l'argent que tu gagnes, ok, c'est une partie de ta rémunération, mais c'est pas que du salaire en fait. C'est important de ne pas oublier qu'une partie de cet argent-là que tu reçois, c'est intéressant qu'elle soit en tout cas, soit mise dans une trésorerie, mais qu'elle soit réinvestie quelque part pour ton développement à toi. Alors ça peut être dans la délégation, pour te constituer une équipe, comme ça peut être dans de la formation ou dans du coaching. Après, comme tu le sais, j'aime bien te dire que tu peux envisager tes investissements aussi comme une opération blanche. Donc l'idée, c'est de te poser tout de suite la question. Voilà, ce truc-là, cette offre-là, ça coûte 1000 euros, ça coûte 2000 euros, ça coûte 500 euros, peu importe. Comment je fais pour rentabiliser cet investissement rapidement avec ce que je sais déjà faire aujourd'hui? Voilà, ou encore, même là, hein, ça peut être aussi, à un moment donné, moi, je veux vraiment me bouger, je veux ce coaching, je veux ce truc, donc soit, je sais pas, je fais des extras, je me prends un job, peu importe, mais je veux me payer cette formation parce que, je suis consciente que j'ai le savoir-faire, mais peut-être pas, je sais peut-être pas comment le faire savoir, je sais pas comment créer un programme ou le packager. Je sais pas ce que je ne sais pas, encore une fois, et je ne peux pas continuer à faire ce que je fais déjà puisque je n'arrive pas à développer mon business toute seule ou avec tous les conseils gratuits que je veux bien trouver à droite, à gauche, mais c'est pas suffisant à un moment donné. Donc, se faire accompagner, et même les meilleurs accompagnants, les meilleurs coachs, en fait, à un moment donné, quand on est dans cette matrice, on comprend à quel point se faire accompagner, c'est indispensable. Et on arrive à la dernière clé. Et alors, la dernière clé, elle va être... c'est la plus simple, mais c'est peut-être celle qui est la plus difficile, finalement. C'est tout simplement, encore une fois, plus simple, mais peut-être la plus difficile, de prendre soin de toi. On a des jobs, tu as un job où tu donnes beaucoup aux autres, où tu prends beaucoup soin des autres. Peut-être même, selon tes centres, où tu reçois... capte, éponge beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, mais toi, qui est-ce qui prend soin de toi? Est-ce que tu oses prendre du temps pour toi? Peut-être que tu as tendance à déprioriser ça, alors que c'est d'une part souvent au cœur de ce que tu enseignes. Donc je dirais qu'en entreprise, on parlerait ici d'exemplarité, puisque tu enseignes ça ou puisque tu accompagnes là-dessus. La première chose, hein, c'est de le vivre toi-même. On en a parlé, la boucle est bouclée avec ce que je disais en préambule. Et puis, y a aussi le fait que si toi-même, t'es vidé, t'es fatigué, tu peux pas offrir le meilleur de toi, tu peux pas offrir une belle qualité de présence, tu peux pas offrir une belle qualité d'énergie. Et ça va forcément se ressentir. Donc, vraiment, je clôture volontairement cet épisode sur cette clé parce que elle est indispensable et je crois que plus on avance en business, plus on s'en rend compte à quel point on est le moteur de notre boîte et que même dans une période chargée, même dans une course effrénée, même quand, peu importe, on a aussi besoin de prendre soin de nous, tu as aussi besoin de prendre soin de toi. On arrive doucement à la fin de cet épisode, donc je te propose de récapituler ces 10 clés que je t'ai partagées aujourd'hui. Donc la première, c'est que les grands défis de ta vie sont ta zone de génie. Que ce que tu as transformé toi-même est la clé de ce que tu peux offrir, transmettre, communiquer et vendre. Que te spécialiser et cibler tes offres te permettra d'aller plus vite. Que monnayer ton temps contre de l'argent, c'est pas la meilleure solution si tu as le besoin à un moment donné de ralentir. Et si tu ne veux pas passer tout ton temps en fait au travail, enfin développer ton business, mais ne pas être confronté à un plafond de verre. Du coup, la cinquième clé, c'est de penser à diversifier ton activité dans tes offres, dans tes formats d'accompagnement. La sixième clé, c'est de ne jamais oublier que ta première audience, c'est ta liste email et que s'il y a un endroit où tu tout de suite faire un effort dans la création de ta société, c'est sur la mise en place de cette liste email. La septième clé, c'est que ton succès et le point qui te montre que tu es en train d'évoluer, en tout cas, eh bien, il est de l'autre côté de tes peurs. Le huitième point, c'est que tu peux envisager de déléguer même si tu es au début de ton activité, même si tu as pas ou tu veux pas ou tu peux pas déléguer grand-chose, c'est possible et crois-moi, c'est game changer. La neuvième clé, c'est de te faire accompagner Et bien évidemment, je te rappelle que je peux t'accompagner sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, que ce soit via mes programmes business comme Yogi Bizline ou via les programmes à venir sur notamment l'EHD, mais qui seront de toute façon quand même corrélés au business. Et enfin, la dixième clé, eh bien, c'est de prendre soin de toi, toi qui es le moteur de ton entreprise. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Je te laisse réfléchir à tout ça, me partager avec grand plaisir tes réflexions. Si mon contenu t'aide, pense à venir me laisser ton avis sur Apple Podcast pour me soutenir. Comme tu le sais, comme je te l'ai dit en préambule, c'est gratuit, c'est rapide et c'est vraiment utile pour moi. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve encore la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.